9h, 10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour, bon dimanche. Le variant brésilien a-t-il de l'avenir en France? Probablement pas. Le virologue Yannick Simonin va nous expliquer pourquoi. Et Michel-Édouard Leclerc va nous raconter la pandémie de Covid, mais vu depuis la grande distribution, le casse-tête que ça a été et ce que cela va changer. Et l'on terminera l'émission avec Alix de Saint-André. Son nouveau livre est consacré à une pension de famille de la rue de Babylone dans les années 70. Oui, une vraie pension de famille, comme dans Le Père Goriot ou dans L'Assassin habite au 21. Yannick Simonin, bonjour. Vous enseignez la virologie à l'INSERM et à l'Université de Montpellier. Vous êtes chercheur sur les virus émergents. Et parmi tous les virus émergents, il y en a dont on parle beaucoup, dont on a assez peur, sont les variants brésiliens. Ce pays grouille de variants. Alors le P1, pour ne parler que de lui, c'est le principal variant brésilien, celui dont tout le monde s'inquiète de la propagation. Il est plus contagieux. Est-ce qu'il est plus mortel?
Oui, bonjour. Alors la question de la mortalité associée à ce variant, elle est encore pas tranchée. Ce qu'on sait clairement, c'est qu'il est plus contagieux. Ça, des études l'ont montré en laboratoire et également sur le terrain. Concernant la mortalité associée, les données sont pas encore suffisamment claires pour le déterminer. Ce qu'on sait, c'est qu'il se propage rapidement, il touche un grand nombre de personnes. Et l'association avec une mortalité accrue est en train d'être investiguée. On aura probablement des informations un peu plus poussées là-dessus dans les prochaines semaines.
On a les yeux fixés sur le Brésil depuis quelque temps. Alors on sait qu'il est dirigé par Jair Bolsonaro, c'est un peu particulier. Néanmoins, en dépit de tout ce qu'on peut reprocher à ce président, confiner un pays comme le Brésil, qui est un pays très pauvre, est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était imaginable?
Alors c'est sûr que confiner le Brésil comme on a pu l'avoir en Europe et notamment en France, avec notamment le premier confinement très dur, puis après des confinements un peu moins durs, mais quand même avec des restrictions importantes, était difficilement applicable dans tous les cas au Brésil, parce que forcément, des gens avec des ressources limitées ne peuvent pas se permettre de pas aller travailler, de rester chez eux. C'est sûr que des mesures supplémentaires auraient pu être mises en place, mais un confinement strict, on va dire à l'européenne, était quand même difficilement envisageable dans un pays comme le Brésil, très clairement.
En France, le variant brésilien, le P1, il est présent dans quelle proportion?
Alors concernant le variant P1, donc le variant brésilien majoritaire au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine, on le retrouve en France à peu près à hauteur d'environ 0,5% d'après les dernières études. Globalement, il a tendance à rester stable et il n'a pas tendance à se propager et à augmenter au niveau de sa proportion par rapport aux autres variants actuellement présents et notamment, bien entendu, le variant dit britannique.
Au fond, ce variant britannique reste plus contagieux que le variant brésilien, donc le variant brésilien ne parvient pas à s'installer chez nous, ou en tout cas à faire grossir son importance.
Voilà, en fait, c'est exactement ce qui se passe. C'est que, très clairement, le variant britannique, il a une contagiosité qui est plus importante que le variant brésilien. Donc là, je ne parle pas de la dangerosité de la virulence, mais de la contagiosité. Il est tellement contagieux, ce variant britannique, qu'il a complètement dominé tous les autres variants dans ce qu'on pourrait appeler la course aux variants. C'est-à-dire qu'on avait plusieurs variants présents en France au début d'année. Et on se rend compte très clairement que le variant britannique est largement majoritaire. Il représente environ 85% des cas actuellement. Variant sud-africain et variant brésilien réunis représentent moins de 5% des cas actuellement et ils ont plutôt une tendance au maintien, à leur maintien au niveau du pourcentage total, voire à une légère diminution. Parce que voilà, ce variant britannique écrase complètement les autres avec une contagiosité beaucoup, beaucoup plus importante.
Au fond, il nous sert de bouclier, ce variant britannique qui nous inquiétait beaucoup aujourd'hui.
Alors, on pourrait considérer en fait qu'il empêche d'autres variants de s'installer, clairement lié à sa contagiosité élevée. Mais le problème, c'est que sa très forte contagiosité nous amène à une explosion du nombre de cas qu'on a pu observer dans différents pays européens, et notamment en France, malgré des mesures de restriction et de testing assez importants. Donc en fait, il se propage vite et il est un problème lui-même au niveau de notre situation sanitaire avec cette troisième vague. Et pour l'instant, il empêche en effet la survenue d'autres variants qui s'avèrent moins contagieux. Après, on peut pas exclure que dans le futur, un variant plus contagieux que le variant britannique prenne le dessus. Mais pour l'instant, on n'est clairement pas dans ce scénario. Les variants brésiliens, les variants sud-africains, qui sont les variants les plus à problème actuellement, sont en effet complètement dépassés par ce variant britannique et du coup ne peuvent pas s'installer. On peut très bien imaginer que si on avait eu simplement un variant, le variant d'origine, le variant classique qui était présent chez nous lors de la première et de la deuxième vague, on aurait pu avoir une augmentation du nombre de variants brésiliens ou sud-africains qui auraient pu prendre le dessus. Mais voilà, le variant britannique a complètement changé la donne.
Aujourd'hui, le variant britannique est majoritaire sur tout le continent européen. Comme on peut imaginer, le variant brésilien va devenir majoritaire sur tout le continent latino-américain. Et c'est déjà presque le cas. À quoi ça sert de fermer les vols en provenance du Brésil à partir du moment où il peut arriver par les vols en provenance du Pérou, de l'Argentine ou de la Guyane d'ailleurs?
Ou de la Guyane d'ailleurs, oui, où le variant brésilien est maintenant bien implanté. Ça, c'est sûr, c'est une vraie question. Est-ce que les frontières, fermer les frontières, ça empêche un variant de s'installer sur un territoire donné? C'est sûr que on va très rapidement être confronté à la difficulté d'empêcher l'arrivée massive d'habitants de différents pays d'Amérique latine qui peuvent potentiellement apporter le variant ou des variants sur le territoire européen. Alors, je sais qu'il y a des mesures qui ont été mises en place. Probablement, il va falloir mettre d'autres mesures. D'un autre côté, ce variant brésilien, dit P1, puisqu'il y a plusieurs variants brésiliens, il est déjà présent en France. Donc, surtout, ce qu'il faut empêcher, c'est la survenue d'autres variants, de nouveaux variants, potentiellement encore plus virulents, encore plus contagieux, qui pourraient arriver notamment du Brésil, parce que il y a des problèmes au niveau de différents pays d'Amérique latine, mais au niveau du Brésil, l'épidémie est complètement hors de contrôle. Et une épidémie hors de contrôle, ça veut dire potentiellement la survenue de nouveaux variants. Plus un virus circule, plus on a de risques d'avoir de nouveaux variants qui apparaissent. Et la problématique, elle est surtout là. C'est éviter qu'un nouveau variant qui n'est pas encore présent sur notre territoire puisse s'implanter. Et là, c'est sûr que ça implique une surveillance et un contrôle des arrivées, probablement un peu plus marqué que ce qu'on a encore actuellement.
Yannick Simonin, on fait une pause, on se retrouve juste après. J'aimerais que vous nous parliez justement de cette situation brésilienne et en quoi elle est différente de la nôtre. Et est-ce qu'on aurait pu connaître la même chose? Nous aussi, on va voir ça juste après ça.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadei.
Nous sommes toujours avec le virologue Yannick Simonin. Alors parlons de cette situation brésilienne. Est-ce que c'est ce que l'on aurait connu si l'on n'avait rien fait? À savoir qu'on s'est toujours dit, au fond, a-t-on bien fait de confiner au mois de mars dernier, de reconfiner ensuite? Et puis on s'est dit assez rapidement, on ne le saura jamais. Mais quand on regarde le Brésil, on se dit, mais c'est peut-être ça que l'on aurait connu si l'on n'avait rien fait, justement.
C'est sûr que quand on observe la situation qui se passe au Brésil avec des mesures de restriction très faibles, on se rend compte que l'épidémie part vite de façon incontrôlée. En France, avec la présence d'un variant britannique encore plus contagieux que le variant brésilien, s'il n'y avait pas de mesures de restriction fortes, comme ce qu'on connaît quand même actuellement avec des restrictions depuis plusieurs mois, on serait dans une situation avec une saturation hospitalière complètement inédite et des mortalités massives. Donc clairement, la situation au Brésil nous montre que mettre en place des restrictions fortes, malheureusement, à l'heure actuelle, c'était la seule solution pour empêcher une explosion incontrôlée de l'épidémie.
Ce que l'on voit au Brésil également, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont hospitalisés, les moins de 40 ans. Alors pourquoi ? Est-ce que c'est parce que c'est le variant brésilien qui s'attaque davantage aux jeunes ou est-ce que c'est lié à la saturation des hôpitaux ? Et au fond, on aurait connu la même chose avec n'importe quel variant. Dès l'instant où c'est plus contagieux, il y a de plus en plus de gens qui vont à l'hôpital, les hôpitaux sont saturés et même ceux qui souffrent d'autres pathologies risquent d'en mourir à ce moment-là, notamment parmi les plus jeunes.
Pour l'instant, on ne sait pas exactement répondre à cette question, même si on a certaines indications. Ce qui est sûr, c'est que quand une épidémie est complètement hors de contrôle, comme c'est le cas actuellement au Brésil, forcément, on a une saturation hospitalière rapide qui arrive. Et quand un virus circule fortement, eh bien, il circule également chez les plus jeunes. Après, la question de la dangerosité du variant, est-ce qu'elle est plus importante ou pas? Il y a quelques données qui suggèrent que peut-être, en effet, il serait un petit peu plus létal ou plus virulent que les variants dits plus classiques. Mais on n'a encore pas de données assez claires là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on le voit également avec le variant britannique. Hein, on l'a vu au Royaume-Uni notamment. Quand un virus se répand rapidement, on a une saturation hospitalière rapide et on a une tendance aussi à avoir des individus plus jeunes hospitalisés, notamment liés aussi au fait que et c'est le cas aussi au Brésil, hein, il y a une partie de la population plus âgée qui est vaccinée et qui du coup ne va pas être hospitalisée, mais ça va être remplacé par des patients plus jeunes malheureusement.
Vous parliez du variant sud-africain, on n'en parle plus beaucoup justement. Alors qu'est-ce qu'on sait de plus aujourd'hui en ce qui le concerne ?
Alors le variant sud-africain, si on regarde la situation plus précisément en Afrique du Sud, on voit que l'épidémie actuellement, elle est sous contrôle. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. En France et globalement en Europe, ce variant sud-africain, il est présent, hein, quelques pourcents. Alors c'est variable suivant les pays. En France, on est à peu près autour de 3 à 4%. Ce variant, il est stable, voire il a tendance à régresser dans certains territoires, notamment du nord-est de la France. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait que ce variant sud-africain, c'est ce variant-là qui est probablement le plus résistant à la vaccination, d'après les études en laboratoire. Et donc, du coup, le fait qu'il n'ait pas pris une place importante en Europe, notamment, c'est une très bonne nouvelle par rapport au variant britannique qui, lui, on le sait, est très sensible à la vaccination.
L'Afrique semble avoir été relativement épargnée, à part l'Afrique du Sud. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi ?
Alors, en effet, ça c'est quand même une autre bonne nouvelle. Au début de l'épidémie, on avait quand même une crainte importante vis-à-vis de l'Afrique, notamment vis-à-vis des systèmes de santé qui sont pas forcément adaptés à des infections respiratoires comme la Covid. Et on se rend compte en effet qu'en Afrique, la plupart des pays africains, notamment en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, sont, je dirais pas indemnes de l'infection Covid, mais ont eu un nombre de cas assez limité. Alors, on peut l'expliquer de différentes façons. On sait que déjà en Afrique, la population est plus jeune qu'en Europe. Donc ça, c'est un facteur important quand on sait que les personnes les plus âgées sont les plus à risque. Également, il y a une densité urbaine qui est plus faible par rapport aux pays européens. Notamment, il y a moins de grandes villes, même s'il y a quelques grandes villes quand même, hein, dans certains pays africains. Il y a moins de densité urbaine, donc forcément moins d'exposition à l'infection. Et puis également, l'Afrique a mis en place des mesures assez précoces, parce que l'Afrique a été le continent africain globalement est habitué à être exposé à des épidémies virales, notamment on connaît l'Ebola, il y a eu la dengue, il y a eu d'autres infections, et il y a clairement un système de surveillance et de suivi qui s'est montré performant quand même en Afrique, il faut le souligner, et où il y a des mesures de contrôle qui ont été mises en place relativement rapidement, qui ont permis de contrôler l'infection. Et jusqu'à présent, à part notamment l'Afrique du Sud où là il y a le variant sud-africain qui a fait beaucoup de beaucoup de dégâts. On se retrouve avec une situation sur le continent africain qui est bien meilleure que ce qu'on peut retrouver en Amérique ou en Europe.
Est-ce que la chaleur a joué? Parce qu'on n'en parle jamais. La chaleur, le manque d'humidité dont souffre parfois l'Afrique, est-ce que ça n'a pas joué en sa faveur?
Alors clairement, la chaleur et l'humidité sont des facteurs importants pour la propagation du virus. On sait que, notamment, il y a des études qui ont été menées en France, que à certaines températures relativement basses et un taux d'humidité élevé, le virus est capable de se maintenir plus longtemps dans l'environnement et du coup va favoriser les risques de transmission. En Afrique, les températures élevées et le temps sec a clairement joué un rôle pour réduire la transmission de ce virus. Et voilà, c'est un élément marquant. La température, l'humidité, clairement, on le sait maintenant, jouent un rôle important dans la diffusion de ce virus.
Yannick Simonin, dernière question. Vous êtes plutôt rassurant en ce qui concerne le variant brésilien P1 dans notre pays, en France, pour les raisons que vous avez expliquées. Mais à plus long terme, il risque d'y avoir d'autres variants. Aujourd'hui, le Brésil, c'est une véritable usine à variants.
Oui, le Brésil, c'est un peu une poudrière et c'est une situation assez inquiétante. On sait que plus un virus circule dans un territoire donné, plus il va avoir de risques de muter. La nature même d'un virus, c'est de muter pour s'adapter à son hôte, pour s'adapter à son environnement. Et clairement, quand on se retrouve avec un pays où il y a déjà des variants qui ont une grande contagiosité, qui circulent en grand nombre, il y a des risques importants d'accumuler de nouvelles mutations et de se retrouver avec des variants potentiellement encore plus contagieux, voire plus virulents. Et donc là, il y a un travail très important à faire, qui est un travail de suivi, et notamment ce qu'on appelle le séquençage, c'est-à-dire d'analyser les souches de virus qui circulent et de les identifier pour pouvoir éventuellement remarquer si un variant spécifique reprend l'avantage par rapport aux autres, parce qu'il aura un avantage sélectif, et si ce variant s'avère en effet plus contagieux, voire plus virulent, bien mettre rapidement en place des stratégies de dépistage et isoler les personnes potentiellement porteuses de ce ou de ces variants.
Merci. Yannick Simonin, je rappelle que vous enseignez la virologie à l'INSERM et à l'Université de Montpellier. On retrouve dans un instant Michel-Édouard Leclerc qui a chroniqué dans un livre toutes les petites et parfois grandes révolutions qu'a connues la grande distribution depuis le début de cette pandémie.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Et c'est maintenant Michel-Édouard Leclerc, le président de Leclerc, qui est avec nous dans cette émission. Bonjour Michel-Édouard.
Bonjour Frédéric.
Vous publiez Les Essentiels de la République, un livre dans lequel vous nous racontez la pandémie de coronavirus, mais du point de vue de la grande distribution. C'est vrai que vous en avez vu des vertes et des pas mûres hein, depuis un peu plus d'un an maintenant.
Ouais, j'ai voulu écrire un peu les petites histoires que la grande histoire ne retiendra pas, parce que tout le monde s'attribuera à la sortie les mérites du combat. Mais j'ai vécu des choses depuis le carrelage des hypermarchés jusqu'au couloir de Bercy. Et je tenais un journal de bord et un de mes collaborateurs, fort perspicace, m'a suggéré de publier ce journal. Donc voilà, c'est le fruit de cette réflexion, de ce travail, puis j'espère des leçons pour l'avenir, quoi.
Alors, il faut savoir que quand on ferme subitement les cantines et les restaurants, comme on l'a fait en mars dernier, lors du premier confinement, le confinement strict, ce sont tout à coup des millions de repas supplémentaires qui vont être confectionnés à la maison. Forcément, les achats en magasin explosent. Et ce que l'on peut craindre, ce sont les pénuries et le rationnement. D'autant plus que très vite, les importations vont cesser, on s'en souvient. Hein, et on se souvient tous de quelques images de rayons dévalisés au tout début, les pâtes et le papier hygiénique notamment. Mais au fond, c'est tout. Il n'y a pas eu de pénurie. Il n'y a pas eu de rationnement. Par quel miracle?
Alors, c'est vrai que d'abord, on a tous été impressionnés par ce rush dans les magasins. Enfin, les trois quarts des Français n'ont jamais connu la guerre, n'ont pas manqué. Il y a eu des crises après la guerre d'Algérie, les plus anciens s'en souviennent. On a manqué d'huile, de sucre et tout. Mais là, cette pandémie a généré un rush sur les pâtes, sur le PQ, sur le riz, sur les produits surgelés, sur les conserves. Moi, je me disais que ça allait exploser les compteurs, quoi. Et puis surtout, il y avait des actes d'incivilité. Donc, Effectivement, tout le secteur de la distribution alimentaire, petit ou grand commerce, s'est mobilisé derrière les transporteurs, l'agriculture, le secteur de l'agroalimentaire. Et en une semaine, on a trouvé des circuits alternatifs et ça a fonctionné. On a gagné cette bataille très, très vite, en fait.
Et en dépit du fait que la demande était plus forte et que l'on ne mangeait que français, il n'y a pas eu d'inflation, ou alors très, très peu, je crois.
Nos auditeurs se rappelleront quand même que sur les produits agricoles français, ça a beaucoup gueulé sur les réseaux sociaux, hein, énormément, parce que il n'y avait pas en avant-saison les fraises espagnoles, les raisins italiens, et de fait, en plus il y avait eu une mauvaise météo pour l'agriculture française, pas de peau, et du coup la distribution a écoulé l'agriculture française, mais non sans accroc, quoi. Il y a eu quand même de l'inflation, mais bon, tout ça c'est résorbé, bien sûr.
Oui, sur la moyenne, à la fin, ça fait combien ?
Oh, ça fait pas plus de 1%.
Voilà. Et
compte tenu d'une situation de crise, c'est rien.
Enfin, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et en revanche, là où il y a eu pénurie, là où il y a eu bataille, c'est pour les masques. Alors racontez-nous, parce que vous le faites dans ce livre, racontez-nous la bataille des masques telle que vous l'avez vécue.
Alors d'abord, je suis à la tête d'un grand groupe de distribution française. Il y a des salariés, il y a des consommateurs. Alors il y a d'abord des syndicats qui réclament des masques pour les caissières, pour le personnel exposé. Mais en même temps, ces mêmes syndicats, vu de l'hôpital, vu des infirmiers, réclament le monopole, l'exclusivité de ces masques. Donc on vit une paranoïa terrible.
Pour les hôpitaux.
Ouais. Donc des injonctions contradictoires. Et puis en même temps, les ministères sont pas carrés, sont pas coordonnés. D'un côté, il y a le pôle Olivier Véran qui veut les masques pour... ce qui reste d'ailleurs des stocks stratégiques pour l'hôpital. Et puis de l'autre côté, il y a Bruno Le Maire qui gère 5-6 ministres autour de lui, du travail, de l'agroalimentaire, etc. Enfin, c'est la citadelle de Bercy qui, lui, nous dit les gars, vous n'êtes pas autorisés d'en vendre, mais il faut commencer à aller en chercher. Vous savez bien qu'il n'y en a pas. Au-delà du discours public, vous avez une responsabilité juridique, voire judiciaire demain. Et donc là, on se met tous chez Intermarché, Système U, Carrefour. On se met tous à appeler nos collègues à l'étranger et on commence à sourcer les masques dont on s'aperçoit qu'ils sont en Chine et que uniquement en Chine. Et puis, avec des Américains qui changent de fusil d'épaule, hein, Trump au départ, il jette le masque, mais à la fin, il mobilise tous les traders pour aller chercher les masques plutôt que de les laisser aux Européens. Et donc, ce sont des collaborateurs des centres Leclerc, de toute la grande distribution, qui vont essayer d'affréter des avions, qui vont passer des commandes dans les usines en Chine et pour essayer de les avoir. Et puis en France, on a, dans le même temps, les pharmaciens, les infirmiers qui les réclament pour eux, quoi. Donc c'est vraiment un moment... pathétique, je puis dire, quoi, avec toutes ces injonctions contradictoires. Et puis finalement, non seulement on arrive à en acheter, non seulement on en a acheté plus de 700 millions, je sais pas si vous vous rendez compte, depuis le 12 mars, avec plein de polémiques, quoi, et des élus qui la ramènent parce que évidemment ils veulent faire oublier qu'ils n'ont pas anticipé cette crise. Et puis donc ils utilisent la distribution comme bouc émissaire.
Il y aura même une polémique, hein, sur le prix des masques. On va accuser la grande distribution d'avoir fait des stocks ou de les vendre trop cher. Est-ce que vous... Alors d'abord, qu'est-ce qui s'était passé en réalité ? Vous venez de nous raconter. Et est-ce que vous avez gagné de l'argent sur les masques ?
Jamais. Enfin, de toute façon, je suis crédible ou pas. Je suis commerçant, on ne me créditera pas d'un crédit sur ce là-dessus, si je puis dire, sans jeu de mots. Mais dans la réalité, tous les groupes de distribution ont acheté à n'importe quel prix parce qu'il fallait des masques, ne serait-ce que pour nos salariés. Hein. Et puis, dans la réalité, on a essayé de les vendre à prix coûtant. Mais même quand moi, j'ai annoncé qu'on les vendait à prix coûtant, je me suis pas rendu compte que ça allait me mettre à dos tous les pharmaciens qui margeaient dessus, quoi, et pour qui c'était peut-être plus important. Donc toujours est-il que c'était polémique sur polémique. Heureusement, il y a une commission d'enquête du Sénat qui a dit tout le bien de la grande distribution. Mais qu'est-ce qu'on a pris effectivement à ce moment-là, quoi.
Et puis alors il va y avoir l'absurdistan, et on se souvient tous de l'absurdistan, vous en particulier. J'ai l'impression que l'absurdistan, ça a commencé presque au début, quand le gouvernement ayant décidé que l'on ne pouvait plus entrer dans les supermarchés qu'une personne par chariot, on a vu tout à coup des petits-enfants rester dehors, tout seuls, devant les grands magasins. Vous en souvenez de ça ?
Ah bah ouais. C'était avec application stricte, par sur ordre du préfet, réquisition de la gendarmerie, une seule personne par famille, application... assez bête de la procédure, pas de flexibilité, et puis des clients qui voulaient forcer les barrières et des vigiles qui se disaient qu'ils allaient avoir des procès si ils respectaient pas les règles. Ouais, c'était complètement absurde. On a eu la même chose avec la segmentation des magasins, avec le droit de vendre certains trucs.
On va en parler parce qu'effectivement ça c'était le comble de l'absurdistan. On fait une pause, on se retrouve juste après. J'ai Edouard Leclerc. D'accord.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes avec Michel-Édouard Leclerc qui publie Les Essentiels de la République aux éditions de l'Observatoire. C'est la chronique de cette pandémie depuis plus d'un an maintenant, mais vue depuis son job de commerçant, comme il dit. Alors, on parlait de l'absurdistan, vous l'avez dénoncé à l'époque dans un tweet resté fameux, dans lequel vous expliquiez, alors là, on était pendant le deuxième confinement, hein, celui de l'automne, vous expliquiez que vous deviez fermer des rayons entiers de vos grands magasins pour ne pas faire de concurrence déloyale aux petits commerces qui, eux, n'avaient plus le droit d'ouvrir. Et tout à coup, vous n'aviez donc plus le droit de vendre des couverts alors que vous aviez le droit de vendre des poêles. Vous n'aviez plus le droit de vendre des thermomix, mais pas des fours, des pierrades, mais pas des tables de cuisson. Mieux encore, vous pouviez vendre des pyjamas pour enfants de 2 ans, mais pas des pyjamas pour enfants de 3 ans. Là, on marchait carrément sur la tête à ce moment-là. Hein, et vous deviez vous y plier, vous n'aviez pas le choix.
Pour ceux qui ont ces références, c'est Courteline, quoi. Mais c'était débile. En fait, il y avait des listes qui étaient éditées par les ministères, mais qui ne correspondaient pas au schéma d'implantation d'un magasin, petit ou grand. Et donc, il fallait mettre des rubans, là, des rubans fixes, pour interdire certaines gammes, pas d'autres. Et nos salariés ne comprenaient rien, parce que au fond, les collaborateurs, ils avaient fait le job, on respectait des règles de jauge, de distanciation, et là, on nous demandait de démolir des rayons qui fonctionnaient bien. Donc voilà, c'était vraiment l'absurdistan. Alors après, on est tous tombés sur le Premier ministre en exercice. Dans la réalité, tout ça, ça n'avait rien à voir avec la règle sanitaire. C'était des conflits corporatistes. C'était pour éviter la remontée des gilets jaunes. C'était pour éviter que les maires de France éditent des arrêtés contre les décrets du gouvernement. Mais vu du terrain, c'était incompréhensible. Et on voit là toute la spécificité de la société française, quoi, qui est une société hyper administrée, hyper étatisée. C'est Tati, quoi. Hein, c'est Jacques Tati.
Il y a quelque...
pour la référence qui est ancienne.
Il y a quelque chose dont on a peu parlé, que vous abordez dans ce livre, ce sont les tentatives de piratage informatique. Une partie de votre personnel étant passée en télétravail, les responsables des achats notamment, vous avez subi des milliers de tentatives d'intrusion dans vos systèmes informatiques qui étaient soudain plus vulnérables. Alors comment vous vous êtes défendu ?
Ben d'abord, on a découvert qu'on était une cible. Alors tout le monde parle des hackers comme si c'était trois boutonneux à Hong Kong ou en Ukraine qui vous envoient des millions d'attaques robotisées. Dans la réalité, on ne sait pas trop d'où ça venait, mais nous avons été à bien des égards paralysés, par exemple dans notre capacité d'approvisionner les drives. Hein, vous savez, ces dépôts où on précommande par internet et on vient chercher. On est encore attaqué avec ça, hein, mais par des millions d'attaques. Et donc on a des sociétés qu'on a été chercher, on connaissait pas, qui sont des surveillants, qui sont des contre-attaquants, qui sont dirigés par d'anciens militaires, d'anciens Israéliens, des gens qui s'y connaissent en géopolitique.
D'anciens pirates aussi.
Et allez savoir, la différence entre pirates et mercenaires vous permettrait à un breton amoureux de la mer de savoir que les frontières sont ténues. Tout dépend qui signe la lettre de mission. Hein. Mais c'est vrai que on ne soupçonne pas ça. Et j'ai voulu raconter ça parce que on le vit et on va le vivre de plus en plus. La société civile est attaquable. On ne se rend pas compte, quoi. Vous êtes épicier breton, même en très grand. Vous devenez une cible d'une sorte d'attaquant fantôme, alors que déjà on se bat contre l'épidémie. Donc voilà, qu'est-ce que ça aurait été si c'était une guerre, une vraie guerre, une guerre bactériologique? Vous voyez qu'il nous faut très vite anticiper ces scénarios.
Alors nous avons consommé différemment pendant toute cette période, par exemple, vous donnez plein d'exemples, hein, mais il y en a un, on a acheté moins de maquillage, moins de déodorant, parce que l'on restait chez soi au lieu d'aller travailler. Est-ce que certaines tendances se sont confirmées depuis ? Est-ce que notre consommation a été transformée à l'épreuve du coronavirus ?
Non, la consommation pendant la période du confinement, c'est une grande parenthèse. C'est un peu du n'importe quoi. On a stressé, on a été boulimique. Mais là, on est revenu vers un cycle beaucoup plus vertueux, inauguré par ce qu'on appelait les états généraux de l'alimentation, là, il y a 2-3 ans. Et au fond, la préoccupation sanitaire l'a emporté sur le n'importe quoi. Et aujourd'hui, ça accélère ce souhait du mieux manger, moins de sel, moins de sucre, plus de bio, etc. Et ça, c'est tant mieux pour nous, pour nos corps, pour notre bien-être. C'est tant mieux aussi pour notre système économique, parce que ça accélère la bonne transition écologique, la bonne transition alimentaire. Et en même temps, c'est des poches de rémunération, des sources de rémunération pour notre agriculture. Hein, c'est pour peu qu'elle y investisse, bien sûr.
Tout cela a beaucoup profité aux plateformes de l'e-commerce, notamment à Amazon. Est-ce que ça va rester, à votre avis? Est-ce que le pli est pris?
Ah oui, alors ça va rester. La crise a accéléré la digitalisation, non seulement de la relation entre consommateurs, entre les marques et les consommateurs. On parle beaucoup sur les réseaux sociaux, on s'exprime, beaucoup de jugements, et les entreprises sont aujourd'hui obligées d'y répondre. C'est pas un truc qu'on peut dire auquel on peut échapper. Et puis surtout le web commerce, quoi, la vente par internet, que ce soit le click and collect, même pour le petit commerce, pour les ventes de jouets, pour les restaurateurs qui maintenant vont soit sur des applications comme Deliveroo, Vero, Uber, tout ça maintenant, ça fait partie de notre mode de consommation, ça va s'accélérer. Et rien que pour Leclerc, par exemple, ça, on a gagné, entre guillemets, 4 ans sur ce processus de digitalisation. En tout cas, vous rendez compte, Leclerc réalise pratiquement 11% de son chiffre d'affaires. Nous, les anciens épiciers de Landerneau, on réalise 11% de notre chiffre d'affaires à partir du digital. Donc, on est obligé d'y aller. On y allait avec des pincettes, maintenant il faut y aller avec du Charles Leclerc, quoi.
Et la relocalisation, la reconquête du marché intérieur, c'est seulement un slogan ou c'est une vraie tendance ?
C'est une vraie tendance que la relocalisation, parce que la crise a été, à tort ou à raison, imputée aux excès de la mondialisation. Les intellectuels vont citer Klein, vont citer les grands écologistes, les derniers militants, mais dans la réalité, même dans le conscient collectif, il y a la nécessité de maîtriser l'approvisionnement, de pouvoir lire les étiquettes, de pouvoir lire la composition des produits sur un label Nutri-Score ou autre. Et ça, c'est quelque chose de très fort. C'est au-delà du souverainisme, au-delà de la polémique sur le local pour la souveraineté, il y a le souci de pouvoir contrôler ce qu'on mange et donc le producteur qui est près de chez nous, quoi. Ça, c'est un formidable atout.
Merci Michel-Édouard Leclerc d'avoir été avec nous sur Europe 1. Les essentiels de la République, c'est votre chronique de la pandémie qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve dans un instant avec Alix de Saint-André pour son nouveau roman.
9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Alix de Saint-André, bonjour.
Bonjour Frédéric Taddeï.
Votre nouveau roman, 57 rue de Babylone, Paris 7e, est consacré à une pension de famille. Alors il faudrait expliquer à nos auditeurs les plus jeunes, qu'est-ce que c'était une pension de famille ?
Eh ben, c'était un lieu où on pouvait habiter autrefois, où habitaient souvent les étudiants qui arrivaient à Paris dans les grandes villes. Et c'était entre l'hôtel et la famille. On pouvait habiter quelquefois chez des familles quand on en avait une à Paris soi-même, ou bien dans un hôtel, mais c'était très cher. Et donc, il existait une situation intermédiaire où vous aviez des chambres comme à l'hôtel, mais vous viviez la vie d'une famille de Parisiens. Et en tout cas, à la pension de famille au Home Pasteur que j'ai connu rue de Babylone, les gens y dînaient le soir, ils prenaient le petit déjeuner le matin, mais à midi, je pense que chacun se débrouillait. Il n'y avait pas tous les services. Et le dimanche aussi, c'était plus léger comme service.
La pension de famille, c'est vraiment un sujet littéraire. Hein. Balzac lui a consacré plusieurs romans, dont le Père Goriot. 24 heures de la vie d'une femme de Zweig, ça se passe dans une pension de famille. L'Assassin habite au 21 aussi. La dernière aventure d'Hercule Poirot. Et Georges Simenon, quand il avait 15 ans, ses parents ont ouvert une pension de famille. À mon avis, il y a eu un échantillon d'humanité d'humanité suffisamment diversifiée, je suis sûr qu'il s'en est servi pour écrire ses romans plus tard.
Alors, très certainement. Et d'ailleurs, dans la pension de famille dont je retrace l'histoire, il y a eu des personnages qui étaient tout à fait dignes de Simenon, des gens assez étranges. Il y avait à la fois, par exemple, un ancien sociétaire de la Comédie française qui ne voulait absolument pas se laver. Alors, il était tout à fait très bien, mais sauf qu'il avait décidé qu'il se lavait pas. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, voilà, il habitait dans sa chambre, il fumait énormément de cigarettes, parce qu'à l'époque, c'était autorisé. Et il fallait que la mère de famille, enfin, Cocotte, qui tenait la pension, négocie fermement, au moins une fois par semaine, pour le convaincre d'aller prendre un bain et le bourrer d'eau bas haut pour qu'au moins, il n'empurne pas l'atmosphère. Il y avait aussi des gens qui venaient de leur province. Il y avait aussi des gens qui étaient restés de la guerre, par exemple des Juifs qui s'étaient cachés pendant la guerre et qui étaient restés après, des Autrichiens. Il y avait toutes sortes de gens qui arrivaient ou de province ou de l'étranger. Et à l'époque où je l'ai connu, c'était surtout des étudiants américains.
Pour les étrangers qui souffrent que les Français ne les invitent jamais chez eux, c'est ce que dit un de vos personnages, c'était une manière de vivre en famille et à la française au fond.
Et ils étaient beaucoup plus libres en fait que s'ils avaient été dans une vraie famille avec un papa, une maman et des enfants où on aurait veillé car ils étaient tous très jeunes sur leur activité nocturne. Là, dans la pension, ils étaient beaucoup plus libres. Donc ils découvraient Paris, à la fois la culture et quelquefois des tas d'aventures féminines et autres. Enfin voilà, c'était une ouverture à une époque qui était beaucoup plus libre en fait que la nôtre et où les hôtes de la maison n'étaient pas chargés de veiller sur leurs vertus.
Alors il faut dire que votre roman a ceci de particulier, c'est que tout y est vrai. Aujourd'hui on appelle roman en fait tout ce qui nous raconte ou essaye de nous raconter la vérité. En l'occurrence c'est plus une enquête qu'un roman, non ?
J'ai toujours voulu en faire un roman et j'essaye désespérément pendant tout le roman d'en faire un roman. Car j'aimerais bien en faire un roman, raconter les choses à ma façon, mais à chaque fois, les histoires que j'entends sont tellement extraordinaires. La vraie vie des gens est tellement... J'ai les cheveux qui... Dès que je les écoute parler, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, si vous voulez. Donc je me dis, qu'est-ce que tu vas aller inventer quand ce qu'ils te racontent est tellement étonnant? Et en plus, je trouve que la façon qu'ils ont chacun de raconter les choses, chacun dans son jus, avec son langage, c'est à chaque fois l'irruption d'un univers qui... que je n'ai qu'à enregistrer, si on peut dire. Mais en même temps, c'est mon point de vue sur les choses. Et j'ai choisi certains personnages et pas d'autres. Et puis, j'en ai accompagné quelques-uns que je suis allé rechercher assez loin à la fin.
Mais au fond, le charme des pensions de famille est sans doute ce qui attire les écrivains dans ces endroits. C'est qu'on y restait plus longtemps qu'à l'hôtel, par exemple. Et au fond, il y a quelqu'un qui le dit dans votre livre, en parlant des pensionnaires, ils ont tous une histoire officielle et puis une autre derrière, comme un faux passeport moral.
Oui, et c'était aussi le cas des autres, si j'ose dire. Car il y avait aussi une vérité qu'on présentait aux étrangers, et puis il y avait derrière d'autres choses, d'autres vies qui étaient cachées, et on avait droit à, comment dire, il y avait l'intimité de la chambre personnelle, chacun avait sa chambre où ils étaient par deux, mais en même temps il y avait une espèce de vie collective qui était beaucoup plus ouverte, je pense. Ils veillaient un peu les uns sur les autres et on admettait que les gens aient des secrets. Voilà, on n'était pas là pour les faire avouer quelque chose. Il y a juste quand la maréchaussée n'est intervenue qu'une fois, quand il y a une dame qui avait volé un bébé en fait, elle était revenue des colonies en disant qu'elle avait eu un bébé. Tout le monde a admiré le bébé. Le mari devait rentrer d'on ne sait où. Et puis on admirait le beau bébé. Puis un beau jour, les gendarmes sont arrivés en expliquant que le bébé avait été volé à l'hôpital et que cette brave dame n'était pas la mère. Enfin voilà. Donc il y a aussi des tas de rencontres différentes. Et puis il y a quelques aventures.
Ça s'intitule 57 rue de Babylone, Paris 7e. Ça vient juste de paraître chez Gallimard. C'est le nouveau roman d'Alix de Saint-André. Merci Alix.
Merci Frédéric.
Europe 1.
C'est arrivé demain, touche à sa fin. Dans quelques instants après les infos, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews, Les Échos, présenté par Mickaël Darmon. Votre invité, Mickaël ?
Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les festivals vont-ils rouvrir ? Les restaurants vont-ils rouvrir ? En tout cas, on est certain, on vote au mois de juin. Et ça aussi, ce sera un festival.
Merci Mickaël, bonne émission et très bon dimanche.